perception sur le terrain. On parlera de prise de son après. Parlons de la reproduction du son. Est-ce que le maillon de reproduction, le haut-parleur et tout le système idéal, existe? Et non, s'il existait, ça se saurait. Il y a des chercheurs, des artisans qui travaillent depuis 100 ans là-dessus et sortent toujours des nouveaux modèles, et qui regardaient les commerces de hi-fi de toutes sortes. Il y a toujours des nouveaux modèles, mais le maillon parfait n'existe pas. Ah, c'est bien ennuyeux. Alors, prenons pour postulat qu'il existe. Il faudrait encore le mettre dans une salle parfaite. Parce qu'au départ, la prise de son tient compte du son qu'on enregistre, du chanteur, de l'oiseau, mais aussi de l'acoustique du lieu, de la salle de Champs-Élysées, du concert des Baos, de la forêt de Rambouillet. C'est pas la même chose, l'acoustique. Donc, les haut-parleurs vont faire ce qu'ils peuvent pour reproduire, surtout s'ils sont parfaits, cette acoustique, mais il ne faudrait pas que cette signature acoustique soit doublée de la signature de la salle. Si on écoute dans sa salle de bain ou dans une bonne salle, ça ne va pas être pareil. Alors, une salle parfaite, ça existe. Dans les centres de recherche, c'est une salle qui n'ajoute pas d'acoustique, dont les parois sont revêtues de matière totalement absorbante. Et là, on peut avoir une reproduction qui approche la fidélité. Mais oui, mais on n'est pas content. C'est là-dedans que ça se passe, mais ce n'est pas vivant. Pour faire du travail d'étude, ça va. Et par contre, c'est très stressant de travailler dans cette atmosphère où il n'y a aucun écho. Des chambres anéchoïques, sans écho. Alors, en fait, on travaille, on écoute comment? Avec le matériel qu'on s'est acheté, qui est placé plus ou moins bien dans la pièce de son appartement, chacun est équipé différemment. Autrement dit, sur le terrain, chacun a une écoute différente, et chacun a une perception différente, et chez soi, chacun a une écoute différente, une référence d'écoute différente. Et puis, en fait, on parle de stéréo en général, ou peut-être de 5.1, ou de multicanal, mais le problème est le même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une supercherie derrière la stéréo? Quand on est dans une salle, dans la nature, on entend des sons qui viennent de là, physiquement, et de là, et de là. Et quand on écoute de la stéréo, on écoute deux trous dans le mur, qu'on appelle haut-parleur. Si on s'est bien calé dans l'axe, comme il est écrit qu'il faut faire exactement bien au milieu, il se forme une image dite fantôme. Il n'y a rien au milieu. Mais on entend des sons et on reconstitue un certain espace. Ça marche, plus ou moins, mais c'est une illusion. C'est une supercherie, c'est une illusion dans le bon sens. Les illusionnistes nous amusent beaucoup et font des choses très intéressantes. Mais on ne parle pas vraiment de vérité. Si on parlait du niveau d'écoute, la courbe de réponse de l'oreille, c'est-à-dire la sensibilité de l'oreille, n'est pas constante du grave, de l'extrême grave à l'extrême aigu. Il y a les limites, les chauves-souris, ils entendent bien plus que nous, mais déjà dans ce qu'on entend. Fletcher et les courbes de Fletcher et Mudson, qui ont étudié ça, ont démontré qu'il y avait une sensibilité plus grande dans la zone médium, la zone qui correspond à la parole. C'est mieux, comme ça, quand on parle, on s'entend, ça marche bien. Mais ce qui est plus ennuyeux, c'est que cette forme de courbe, elle ne monte pas ou elle ne descend pas parallèlement exactement à elle-même, suivant le niveau, elle se déforme. C'est-à-dire qu'à très fort niveau, on va entendre assez bien les graves et les aigus, et puis plus on descend, on entend encore le médium, et puis les aigus et les graves s'en vont, on n'entend plus. Alors déjà un concert de 100 musiciens, on ne peut pas l'écouter au même niveau chez soi que dans une salle, parce que les voisins taperaient au plancher ou au plafond. On écoute déjà plus bas, donc on est sûr de ne pas avoir la vérité. Et si on écoute doucement, alors on va perdre des harmoniques aiguës, on va perdre des graves, il reste une ligne mélodique. C'est bien, ça nous fait plaisir, mais on s'éloigne de la vérité. Quelques petits mots sur la compression. La compression des données, pas la compression de la dynamique, ça France Musique nous comprime la dynamique, c'est-à-dire entre les sons les plus forts d'un tutti d'orchestre et puis les pianissimo, c'est à peu près toujours pareil maintenant. On s'ennuie un peu écouter France Musique. Mais c'est pas de celle-là, c'est pas encore ce qu'il y a de pire. Ce qui est pire, c'est la compression des données. Alors, jusqu'ici, je parlais de j'imaginais que les chercheurs travaillaient à toujours faire mieux, et puis il y a d'autres chercheurs qui s'appliquent à faire, sinon mal, du moins pour des raisons mercantiles, à créer le besoin à chacun d'entre nous d'avoir un petit appareil dans sa poche avec 10 heures, 20 heures, 1000 heures de musique, toujours plus petit et transité par Internet, et tout ça, c'est extraordinaire. Mais la vérité, elle en prend un bon coup. Parce que même si les prix des petits appareils ont diminué, on ne peut quand même pas, puis même si c'était moins cher, on voudra en mettre plus. Alors on ne s'en sortira jamais. Et là aussi, il faut que, par Internet par exemple, que les vitesses de transfert de données, il faut qu'elles suivent en temps réel, il faut qu'on ait la musique en temps réel. Et tout ça, on ne peut pas passer toutes les informations qui sont contenues dans le message musical. Alors on en conserve un dixième, un vingtième, et encore moins. Et ce qui est étonnant, c'est que ça marche. Enfin, ça marche plus ou moins. Ça marche dans le métro, quand on a un casque et le bruit du métro. Sinon, il faut reconnaître qu'on nous ment de façon éhontée. On ne peut plus parler de vérité, là, il n'est pas question. Alors, je vous ai peut-être démoralisé un petit peu.
Non, ça ira.
Mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais il y aura un rebondissement beaucoup plus enthousiasmant quand même.